Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dewani Wamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Hallo du monde.
Chienne Berry. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Les élections sont-elles possibles aux dates indiquées, c'est-à-dire d'ici la fin de la transition? Le chef du gouvernement a défendu en début de semaine son plan d'action gouvernemental devant les membres du CNT, le Conseil national de transition. Parmi les différentes annonces faites, figure la tenue des élections aux dates indiquées. Si certaines voix abondent dans le même sens, d'autres, en revanche, estiment que ce chronogramme n'est pas tenable. Ces derniers se demandent comment mettre en place l'organe unique de gestion des élections en si peu de temps. Pour un rappel, le délai de la transition qui prend fin dans moins de 7 mois prévoit entre autres un référendum au mois d'octobre prochain, un premier tour couplé présidentiel-législatif le 27 février 2022, les seconds tours respectifs les 13 et 20 mars 2022. Pour parler de cette situation, nos invités au nombre de 3 sont Bakary Dénan, secrétaire général du parti PDS, Dr Ibrahima Sango, président de l'Observatoire citoyen pour les élections. Il dit qu'il est en cours de route, on l'attend dans le studio ici. Au téléphone, nous avons Amadou Traoré, homme politique et président d'honneur du camp de jeunesse entreprenante pour le développement. Je suis Mariam Meiga, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue.
Le Grand Dialogue.
Le chronogramme des élections générales a été publié en avril. Ce chronogramme sera maintenu. Que retenir de cette déclaration de Dr Choguel Kokala Maïga, chef du gouvernement Bakary Dénan?
Merci bien pour la question. Et je remercie le studio Tamani de leur invitation. Je remercie tous les auditeurs et les auditrices de studio Tamani. Alors, ce que nous retenons essentiellement du programme d'action gouvernementale du Premier ministre, c'est qu'il a décliné son programme en 4 axes majeurs. Et sur les 4 axes majeurs figure d'abord la tenue des élections prévues et normalement à la fin de la transition, les élections générales qui avaient été déjà annoncées. Alors, par rapport à sa déclaration, il y a des zones d'ombre. C'est-à-dire, il y a des imprécisions sur, par exemple, le chronogramme détaillé et le format qu'il a proposé par rapport à la création de l'organe unique de gestion des élections. Et d'ailleurs, il dit que cet organe sera créé et sous l'égide du ministère de la Refondation. Donc là également, parce qu'un organe unique de gestion des élections, je vous rappelle que déjà nous en avons largement parlé, et il n'y avait pas de contradiction à ce niveau ici. Pratiquement toute la classe politique au Mali est d'accord avec la création d'un organe unique de gestion des élections. Mais nous, au niveau de notre parti, le Parti pour le développement économique et la solidarité PDS, on avait estimé que pour mettre en place un organe unique de gestion digne de ses noms et pour répondre à nos attentes, qu'il fallait au moins 2 ans. Et là, c'est les conclusions du dialogue national qui en disent long. Et bien avant le dialogue national, et sous la présidence de son Excellence Fé Amadou Toumani Touré, et il y avait la commission d'Aba Diawara également, qui avait travaillé également dans ce sens et qui avait également dit que pour mettre en place un organe unique de gestion, qu'il fallait au moins 3 ans. Donc, compte tenu de toutes ces réalités, nous avions estimé à l'époque qu'il n'était pas nécessaire aujourd'hui d'improviser un organe unique de gestion des élections. Alors, maintenant, il y a eu des ateliers au cours desquels la classe politique, dans sa majorité, s'est prononcée. Le Premier ministre lui-même a rencontré la classe politique et après la tenue de cet atelier, et il a décliné sa position et dit qu'il est quand même décidé à aller compte tenu des conseils prodigués par ses experts. Et les mêmes experts qui étaient là au temps de Mukhtar Wan, qui avaient estimé que le temps imparti ne permettait plus de mettre en place un organe unique de gestion des élections, ces mêmes experts-là sont là toujours et pour défendre qu'il est possible de mettre en place le même organe unique de gestion des élections. Alors, quelque part, moi, je me dis que peut-être qu'il y a une incompréhension de fond. C'est-à-dire que quel type d'organe unique de gestion des élections voulons-nous finalement? Est-ce que ce à quoi nous nous attendons, c'est-à-dire mettre en place une structure autonome indépendante dans la durée qui va s'occuper toutes les questions électorales au Mali, ou bien est-ce qu'il s'agit de mettre en place une structure provisoire maintenant pour les besoins du mouvement? Voilà un peu les questions souvent qui ne sont pas tellement bien posées, ou encore, en tout cas, les réponses ne sont pas tellement les bonnes réponses. Donc moi, j'ai envie de savoir le format qu'on veut donner à cet organe unique de gestion des élections, déjà, comme vous l'avez déjà rappelé, à quelques 7 à 8 mois de la fin de la transition. Alors, donc, c'est en tout cas la grande question. Une autre question, ça, c'est les assises nationales dont il a évoqué. Alors, moi, je me dis déjà que ça sera une assise de trop. Une assise de trop parce que vu le temps imparti et vu déjà le problème qui pointe à l'horizon, c'est qu'on a l'impression qu'il y a une sorte de passage en force qu'il tente de faire. C'est qu'on veut réaliser coûte que coûte pendant qu'il y a une bonne partie de la classe politique qui n'est pas totalement d'accord. Donc, je pense que c'est des choses à éviter pour le moment. On n'a pas besoin d'aller en rang dispersé. Compte tenu du temps qui nous reste, il est quand même judicieux que la classe politique chemine ensemble. Donc, pour aboutir à des réformes auxquelles nous nous attendions depuis fort longtemps.
Monsieur Amadou Traoré, vous participez à ce grand dialogue par téléphone. Vous êtes avec nous?
Oui, je suis là.
Alors, il ne reste plus que 7 mois pour la transition. Malgré les annonces faites par le chef du gouvernement, Dr Chogal Kwakala Maïga, le lundi, rassure-t-elle pour dire que les élections vont se tenir?
Oui, au fait, bonsoir à Mariam, bonsoir aux auditeurs et aux invités. Je pense qu'il y a beaucoup de points d'ombre à élucider dans les programmes d'action gouvernementale que M. le Premier ministre a bien voulu présenter. Aujourd'hui, nous sommes en face d'un certain nombre d'équations pour lesquelles il va falloir trouver des solutions. Voilà, ne pas respecter les délais impartis de la transition va contribuer beaucoup plus à décrédibiliser les pays par rapport à l'opinion internationale. Et tenir les élections à délai imparti serait très convenable dans ce sens. Mais à quelles conditions et pour quels résultats? Voilà, je pense que c'est entre autres questions qu'il faudrait se poser. Ça va être très difficile de tenir ces délais, mais je pense que le Premier ministre doit, avec son gouvernement, proposer un plan d'intervention beaucoup plus convenable et digeste. À défaut de pouvoir faire le tout, je pense qu'on peut quand même dégager des priorités. Parce que déjà, en ce qui concerne l'organe unique de gestion des élections, moi, je pense qu'a priori, il faut aller vers des réformes, quoi. Et cela rentre dans le cadre des réformes. Donc, il faut aller carrément vers le référendum constitutionnel. Qu'est-ce qui est entrepris et qu'est-ce qui peut être réalisé rapidement dans ce sens? Tout laisse à croire que le gouvernement pense avoir tout son temps pour y arriver parce qu'on donne des échéances. Mais en termes d'activité, ce que nous voyons de manière pratique et pragmatique ne permet pas d'atteindre les objectifs prédéfinis. Voilà. Donc, en plus du référendum constitutionnel, je partage les mêmes points de vue que mon prédécesseur tout de suite par rapport à la mise en place de l'organe unique de gestion des élections. Je pense qu'on est un peu court dans les délais. Il faut dégager des priorités. Aujourd'hui, à mon avis, la priorité serait les élections référendaires, législatives et présidentielles. Les restes pourraient attendre. Maintenant, par rapport à l'organe unique de gestion des élections, si ce n'est pas possible tout de suite, il faut peut-être convenir avec l'ensemble de la classe politique et la société civile d'un mécanisme d'intervention qui va être pris en compte temporairement par la nouvelle constitution. Et on pourrait aller sur cette base. Voilà.
Bakary Dena, vous êtes d'habit. Monsieur Amadou Traoré, ça s'est compris. Juste le temps de faire réagir Bakary Dena. Est-ce que vous êtes d'avis qu'il faut aller vers les référendaires avant les autres élections ou faut-il organiser toutes ces élections au même moment?
Merci bien pour la question. Alors déjà, je pense que au stade actuel déjà de la transition, il ne nous paraît pas tellement nécessaire d'opérer certaines réformes, notamment le référendum. Alors, le référendum nous ramène à la révision de la Constitution. Alors, ce qui pose déjà un problème au Mali. Et si nous prenons aujourd'hui le contexte sécuritaire, si nous prenons aujourd'hui l'article 118 de la Constitution, les données sont très claires. Aujourd'hui, au Mali, il n'y a pas d'Assemblée nationale. Ça, c'est un premier handicap. Et le deuxième handicap, c'est que les conditions sécuritaires ne sont pas réunies pour que nous puissions tenir un référendum digne de ces noms. Donc, ça peut poser déjà des problèmes. Donc, là où je ne suis pas tellement d'accord avec M. Amadou Traoré, c'est sur le référendum. Maintenant, il y a les autres réformes qui peuvent se faire, notamment les réformes politiques et institutionnelles sur la loi électorale, par exemple. Et vous avez la charte des partis politiques, vous avez la loi organique sur les députés. Et c'est un travail déjà qu'on avait commencé. À titre de rappel, le ministère de l'administration territoriale avait organisé en janvier dernier des ateliers au cours desquels nous avons procédé à la relecture et de ces différents textes, ces textes. Alors, il y a eu également un dernier atelier qu'on a tenu en mois de mai. Également, c'était pour aller faire les derniers toilettages. Et là-bas également, la classe politique et la société civile y étaient invitées. Donc, c'est pour vous dire tout simplement que par rapport à ces trois textes que je viens de citer, il n'y a pas tellement de problèmes. Nous avons déjà, au niveau du ministère de l'administration territoriale, fait un travail. Nous sommes déjà en avance. Et on peut revoir un peu les conclusions et les recommandations de ces différents ateliers et voir maintenant avec le reste de la classe politique, parce qu'il y a certains qui n'étaient pas là déjà, mais la majorité quand même était présente lors de ces différents ateliers. Et à titre de rappel, il y avait à peu près 200 et quelques partis politiques, il y avait plus de 75 organisations de la société civile. Donc l'inclusivité était là déjà et nous sommes mis déjà d'accord sur un certain nombre de réformes nécessaires concernant ces différents textes. Donc le reste du travail consistera maintenant à inviter la classe politique à voir maintenant ce qui peut être fait et d'ici la fin de la transition. Maintenant, je suis totalement d'accord avec lui lorsqu'il dit qu'il faille organiser les élections. Alors, j'avais deux impératifs qui s'imposaient d'abord à la transition. Le premier impératif, c'était de procéder à des réformes profondes. Malheureusement, cela n'a pas pu être fait. Quand je parle de réformes profondes, je parle ici de la révision de la Constitution, parce qu'il y a des réformes qui nécessitaient la révision de la Constitution. Malheureusement, nous sommes un peu en retard par rapport à ça. Maintenant, il y a d'autres réformes qui peuvent être faites. Ensuite, le deuxième impératif, c'était la tenue des élections générales. À la date d'aujourd'hui, il est presque impossible pour nous de parler d'élections générales, parce qu'il y a les élections locales, il y a les élections régionales, et avant ces élections, il fallait d'abord faire un certain nombre de réformes, et ces réformes devraient nous conduire maintenant au référendum, c'est ce qui avait été prévu, et après le référendum, maintenant, on allait organiser les différents scrutins. Donc, à la date d'aujourd'hui, il n'est pas tellement opportun d'aller à toutes les élections. Nous pouvons voir très concrètement les élections qui sont indispensables. Et toutes les élections sont importantes.
Il s'agit de quelles
élections ? Alors, précisément, nous proposons, et à l'impossible, nul n'est tenu, nous proposons la tenue des élections présidentielles couplées aux élections législatives, puisque le pays a besoin de ça aujourd'hui. Ça fait quelque temps déjà que nous sommes là dans le tâtonnement. Il faut que les choses avancent un peu. Nous n'avons pas un organe législatif digne de ce nom représentatif et il faut que nous ayons un président démocratiquement élu qui peut avoir la légitimité pour mener à bien les futures réformes. Voilà un peu ce qui peut être fait d'ici la fin de la transition pendant les 8 à 7 mois qui restent.
Alors, Dr Ibrahima Sango de l'Observatoire citoyen pour les élections vient de nous rejoindre. Alors, Bakary Déna vient de dire qu'il faut prioriser les élections. Il n'est pas urgent d'organiser toutes ces élections ensemble. Êtes-vous d'avis qu'il faut aller rapidement organiser les élections qui sont urgentes et laisser les autres élections à un gouvernement légitime?
Absolument, nous sommes d'accord avec cette pensée, cette idée. Aujourd'hui, nous pensons qu'il reste 8 mois pour la transition.
Moins de 8 mois.
Si on se réfère à la charte de la transition a démarré le 25 septembre. Donc, à notre avis, le 25 mars, la transition doit finir. Donc d'ici là, il faut prioriser non seulement les réformes qu'il faut faire, mais aussi les élections qu'il faut faire. On se rappelle qu'en avril, le gouvernement avait produit un chronogramme pour dire qu'il y aura six grandes élections. Les élections locales, les élections communales, les élections régionales, le référendum et puis les élections législatives et présidentielles. Donc à notre avis, le temps récent pour la transition ne permet pas d'organiser toutes ces élections. Et comme on l'a dit, depuis le mois de mai, juin, où la CEDEAO a quitté ici, elle a dit qu'il faut prioriser les réformes, prioriser les élections. C'est quel type d'élection on peut faire, quel type d'élection on peut faire. Mais pour nous, l'urgence d'abord, c'est de disposer d'une loi électorale. Aujourd'hui, on n'a pas de loi électorale. Alors que le protocole additionnel de la CEDEAO est clair là-dessus, 6 mois avant les élections, le cadre doit être fixé. Toutes les règles du jeu doivent être connues de tous les acteurs. Et on a aujourd'hui, avant le 26 août, il faut impérativement qu'il y ait une loi électorale en République du Mali. Parce que l'ancienne loi électorale n'est plus en vigueur du fait que la CENI a été dissoute. Et le Premier ministre, dans son adresse devant les membres du CNT, a dit que l'organe unique de gestion des élections va être mis en place. Donc avant le 26 août, impérativement, il faut une nouvelle loi électorale. C'est la priorité des priorités pour dire qui va organiser les élections de fin de transition et quels sont les types d'élections qu'on va organiser. Si c'est le référendum, l'élection présidentielle ou bien les élections législatives, ou alors si c'est seulement l'élection présidentielle et les élections législatives qui seront organisées pour les élections pour sortir de la transition, il faut qu'on le sache. Mais avant de le savoir, il faut d'abord que le cadre législatif et réglementaire soit fixé. Et ce cadre, c'est la loi électorale qui doit être impérativement relue, adoptée et promulguée avant le 26 août 2021. Sinon, on rentre encore dans des turbulences politiques et géostratégiques.
Amadou Traoré, Dr Sango vient de dire qu'il faut rétablir les règles du jeu. Comment aller aux élections alors que la question sur l'organe unique de gestion n'est pas tranchée?
Au fait, il y a cette situation, mais mieux. Hein. Moi, je pense même que les réformes intermédiaires dont il est question ici, notamment les réformes législatives et réglementaires, je pense qu'elles vont imposer, à mon sens, une réforme constitutionnelle. Voilà, parce que déjà, il y a des fonctions de la République qui sont dûment créées par la Constitution, qui sont investies des missions et tout. Alors, passer à l'organe unique de gestion des élections, à mon avis, va nécessiter une meilleure définition et effectivement des pouvoirs dans la Constitution. Voilà, donc c'est pourquoi je parle même de du référendum constitutionnel. Je vois mal comment on pourrait effectivement arriver à toutes ces réformes sans toucher aujourd'hui à la Constitution. Voilà. Donc, c'est des amalgames. Aujourd'hui, il y a deux possibilités. Est-ce que nous allons essayer d'être toujours dans ce cadre légal, en conformité avec la Constitution et les nouveaux textes qu'on va prendre pour intervenir? Où va-t-on faire comme ces derniers temps nous avons pris quand même cette bonne habitude, ou du moins cette habitude de le faire, c'est-à-dire mettre la Constitution à côté et avancer sur la base de ce qui va être convenu entre l'État, les partis politiques et les autres acteurs concernés.
Bakary Dena, est-ce que le temps restant pour la transition permet de mettre en place cet organisme de gestion? J'ai compris que vous êtes pour, mais est-ce qu'on a suffisamment le temps d'y aller?
Merci bien pour la question. Et je l'ai dit maintes fois, nous ne sommes pas contre l'organe unique de gestion des élections. J'ai dit qu'il y a en quelque sorte une sorte de flou artistique autour de l'organe unique de gestion des élections. Les gens n'ont pas la même appréhension. L'organe unique de gestion que nous voulons, nous avons dit que le temps imparti ne nous permettait plus d'aller à ça. Et je l'ai dit ici, dans ce studio ici. Et même quand bien même que les experts ont tenter de démontrer sa faisabilité, nous avons dit que ce n'était pas tellement possible au regard du temps imparti. Alors, maintenant, on peut voir un autre chemin. Le chemin, c'est quoi? C'est qu'il n'y a plus de CENI. Nous avions proposé à l'époque qu'il fallait réunir toute la classe politique et la société civile et voir dans quelle mesure on peut mettre en place une CENI transitoire. on peut l'appeler autrement, une CENI transitoire, c'est-à-dire que voir maintenant les structures existantes, notamment le ministère de l'administration territoriale, la délégation générale aux élections, la classe politique et la cour constitutionnelle, etc., etc. Donc voir un peu dans quelle mesure on peut mettre en place une CENI transitoire et pour seulement organiser les élections avant la fin de la transition. Ensuite, le président le nouveau président élu allait procéder maintenant aux autres réformes. C'est ce que nous avons proposé. Maintenant, comme le Premier ministre, déjà, il a dit dès son adresse, dès ses premières déclarations, qu'il tenait coûte que coûte à la mise en place, à la création de l'organe de gestion des élections. Bon, attendons voir. Attendons voir. Mais nous avons beaucoup, beaucoup nous sommes très sceptiques quant à sa faisabilité. On ne doit pas l'improviser. Par expérience, on a parlé des échecs de la CENI. La CENI, par définition, est un organe unique de gestion des élections qui a péché parce qu'elle a été improvisée en son temps dans les années 97. Tout le monde le sait. Et le forum qui a eu lieu a clairement dit que le temps donné à la CENI pour préparer les élections, ce temps-là vraiment ne suffisait pas à la CENI vraiment d'être plus efficace. Et si on doit créer un organe de ce genre encore, sans dire réellement tous les tenants et les aboutissants, parce que c'est ça la zone d'ombre. Tout le monde parle d'organe unique de gestion. Quel est le format qu'il faut pour aller à cet organe unique de gestion? Quelle peut être la clé de répartition? Personne n'en parle. Qu'est-ce que nous voulons concrètement lorsque nous parlons d'organe unique de gestion des élections? Personne n'est contre. Mais dans la pratique, on voit qu'il y a des divergences. Qu'est-ce qui amène ces divergences? Parce que les gens n'ont pas la même appréhension. Nous pensons très honnêtement aujourd'hui qu'il n'est plus nécessaire d'envisager cela, mais de voir maintenant, c'est les structures qui ont l'habitude d'organiser les élections, de voir maintenant ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, de corriger les intersections des erreurs du passé et d'avancer. Parce que la transition n'a pas vocation à durer. Plus elle dure, plus elle devient inefficace. Il faut que les gens comprennent cela. Et nous avons besoin d'avoir une certaine légitimité au sommet de l'État. Le Mali a besoin d'avoir un président de la République et qui aura les coups de franche maintenant pour opérer les réformes attendues. C'est ce que j'ai dit. Donc les deux impératifs majeurs qui attendaient la transition, ces deux impératifs aujourd'hui, il ne reste que l'organisation des élections crédibles et transparentes. Maintenant, les réformes, malheureusement, on a perdu beaucoup de temps. Ces réformes auxquelles nous aspirions, ces réformes ne peuvent plus se tenir parce que tout simplement, le temps, on a perdu beaucoup de temps. Donc c'est ça un peu la question de fond. Sinon, la tenue des élections, nous sommes totalement pour parce que nous voulons que le délai de la transition soit respecté. Parce que le Mali a pris des engagements vis-à-vis de la communauté internationale, donc il ne faudrait pas qu'on aille au-delà. Et quand M. Sango dit qu'il est temps quand même de définir certaines choses, je suis totalement d'accord avec lui. Et déjà, il faut qu'on arrive déjà à poser les jalons. Il faut qu'on montre le vrai visage qu'on veut aller aux élections.
Alors, Dr Ibrahima Sango, êtes-vous également sceptique quant à l'organisation de cet organe unique de gestion?
Non, pour la mise en place de l'organe, nous ne sommes pas du tout sceptiques.
Quels peuvent donc être les avantages de l'organe unique de gestion pour ces élections à venir?
Si on se réfère à la crise post-électorale du 18 août 2020 seulement, on se rend compte que les députés qui se sont plaints du ministère de l'administration territoriale sont au nombre de 39. C'est-à-dire que le ministère de l'administration territoriale, en tant qu'organisateur des élections, n'inspire pas confiance. Et les députés qui sont pleins de la Cour constitutionnelle sont au nombre de 29. Ça fait un total de 68 et c'est presque la moitié des 147 députés qui devraient siéger à l'Assemblée nationale. Donc ça veut dire que les organes actuels n'inspirent pas confiance. Et quand on prend la délégation générale aux élections, chaque année, dans le fichier électoral, les personnes décédées reviennent dans le fichier électoral. Ça veut dire qu'aujourd'hui, de 1999 à aujourd'hui, la délégation générale aux élections n'inspire pas confiance. Quand on prend la CENI, qui a suivi et supervisé les élections de 2018, elle n'a rien dit par rapport à la crise post-électorale. Elle n'a pas dit un mot. Elle est chargée du suivi de la supervision, mais on n'a pas vu un rapport de suivi ou de supervision. La CENI qui a supervisé les élections législatives de 2020, on n'a pas vu de rapport de suivi et de supervision. Donc ça veut dire que les organes actuels posent problème. Si les organes actuels posent problème, même, il faut profiter de la transition. Parce que l'organisme de gestion des élections, on est en train de le réclamer depuis 2008 au moins, dans le rapport d'Abba Diawara. Pour nous, c'est possible. Parce que 6 mois avant les élections, il faut fixer les cadres. C'est ce que disent les normes et conventions internationales. Et si on prend le mois d'août à janvier 2022, août 2021 à janvier 2022, ça fait les 6 mois. Et avant que les 6 mois n'arrivent, il faut déjà fixer le cadre. C'est pourquoi on a dit qu'il faut impérativement une loi électorale. Maintenant, l'organe unique de gestion des élections, son avantage, c'est quoi? C'est qu'il va s'occuper du cycle électoral. Si on se réfère au mandat électif en République du Mali, on prend l'exemple du Haut Conseil des collectivités territoriales. Le mandat est fini depuis 2012, n'a pas été renouvelé. Alors que les organes qui organisent les élections sont là, mais le mandat n'a pas été renouvelé. Et cela pose un problème par rapport à la démocratie, par rapport à la République. Si on prend l'exemple de 2018, où le mandat des députés a été prolongé de 6 mois, s'il y avait un organe unique de gestion des élections, cela n'allait pas être fait, parce que l'organe unique va s'occuper uniquement de l'organisation des élections à date. C'est-à-dire que si dans la Constitution on dit que le mandat des députés c'est 5 ans, chaque 5 ans, il faut organiser les élections. Si on se réfère à 2019 où le mandat des députés a été prolongé de 11 mois, ça veut dire qu'il n'y avait pas un organe unique de gestion des élections. Et les organes qui existaient n'ont pas pu faire face à ce problème. Donc l'organe unique, on peut le créer de deux manières. En 97, la CENI a été créée dans la loi électorale. Ce qu'on reproche à la CENI de 97, elle a été créée en janvier pour organiser des élections en avril, 3 mois après. L'échec était programmé. Maintenant, on a le temps. 8 mois qui restent, 6 mois avant, on doit fixer les règles du jeu. On peut créer l'organe unique de gestion des élections dans la loi en modifiant uniquement 2 articles majeurs. L'article 27 qui consacre les missions et attributions de la délégation générale des élections, on transforme cet article pour dire que la délégation générale des élections devient un service technique chargé du fichier électoral de logis unique. Maintenant, les attributions du ministère, l'article 28... On remet ses attributions à l'organe unique de gestion des élections. C'est comme une CENI. Dans tous les pays voisins, c'est la CENI. On l'appelle CENI. Et au Mali, on l'avait appelé CENI. Donc, l'organe unique sera créé et va proclamer des résultats provisoires. Et ça, c'est possible dans la loi, sans toucher la Constitution. Maintenant, si on veut que l'organe unique ait les attributions de la Cour constitutionnelle actuelle, qui proclame des résultats définitifs, là, obligatoirement, on doit toucher la Constitution. Mais, dans tous les cas, on peut créer l'organe unique uniquement dans la loi. Et l'organe unique va proclamer les résultats provisoires, va tout organiser et proclamer les résultats provisoires. Ce qu'il faut dire aux gens, c'est que aujourd'hui il n'y a pas de CENI. La CENI, quand on va la mettre en place dans la loi, la CENI aura au moins 1 mois pour mettre en place ses demandements au niveau national, au niveau des consulats, des ambassades à l'extérieur. L'organe unique, c'est la même chose. On met en place l'organe unique sous forme de CENI. Les 15 membres de la CENI, c'est les 15 membres de l'organe unique de gestion. Et l'organe unique va mettre en place ses demandements au niveau national et dans les ambassades et consulats dans l'espace d'un mois. Maintenant, procéder à la révision extraordinaire des listes électorales, la révision exceptionnelle des listes électorales. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il n'y a pas de liste électorale pour aller aux élections. Et normalement, le 1er octobre au 31 décembre 2020, il devrait y avoir la révision
ordinaire. On allait y venir. Donc, le temps de faire réagir Amadou Traoré sur ce que vous venez de dire. Amadou Traoré, êtes-vous d'avis que les organes actuels, comme Dr Sango vient de le dire, ne sont pas crédibles et qu'il faut aller vers la création de l'organe unique de gestion?
Tout à fait. C'est des organes, effectivement, qui ont montré leurs limites dans le cadre de la gestion des élections, et notamment celles qui ont quand même été à l'origine de la crise que nous connaissons en ce moment, la crise politique que nous connaissons aujourd'hui. Voilà. Donc, je suis d'accord également que aujourd'hui, à travers la loi électorale, effectivement, si, comme il le propose, les Sango, qu'on intègre la dimension création de l'organe unique de gestion au niveau de la loi électorale. Et ça peut bel et bien aller, mais sauf que ça va être un organe qui pourra juste se prononcer sur les résultats intermédiaires et non définitifs. Je pense que ça, c'est un premier problème. Le second aspect, je pense que je l'ai dit un peu plus haut, ça va, si cet organe doit pouvoir donner des résultats définitifs, ça va nécessiter effectivement une réforme constitutionnelle. Et cela va de soi. Il a posé le problème de la liste électorale aussi.
Oui, ça, on va en venir juste. Merci, docteur Amadou Traoré. Bakary Dena, est-ce que nous sommes suffisamment prêts pour aller vers ces élections? Est-ce que on est prêt, tout est fin prêt?
Vous savez, une élection, c'est un processus. C'est un processus.
Sans vous parler du fichier électoral déjà.
Oui, le fichier électoral, bon, le fichier électoral est, au fur et à mesure, le fichier électoral est mis à jour. Sango le sait. Le fichier électoral du Mali, c'est à base du recensement du ministère de l'administration territoriale. Donc, c'est le ministère de l'administration territoriale qui fournit les bases de données à la délégation générale aux élections. Donc, ça, c'est des données qui sont là. On peut procéder, par exemple, à l'audit du fichier électoral. Et les experts ne manquent pas au Mali. Et on a un fichier électoral. Il y a une base de données qui est déjà là. Maintenant, là où je ne suis pas tellement d'accord, c'est que lorsqu'on tente de remettre en cause toutes les structures qui ont l'habitude d'organiser les élections au Mali, le problème de ces structures, ce n'est pas seulement... C'est un manque de confiance, une crise de confiance qui s'installe de plus en plus entre la classe politique et l'administration et entre la classe politique et les électeurs. Ce problème, c'est à ce niveau. Lorsque vous prenez les élections de 2013, c'était le ministère de l'administration territoriale qui les avait organisées. Il n'y a eu aucun problème. D'ailleurs, le vaincu est allé saluer le vainqueur à la maison, à domicile. Aucune contestation. Maintenant, le risque zéro n'existe pas en matière d'organisation d'élections chez nous ici. Il n'y a pas une seule élection au monde entier où il n'y a pas de contestation, ça n'existe pas. Mais on peut faire de telle sorte que les contestations soient un peu minimes. C'est un peu cela. Alors, par rapport à la question du fichier, il y a un travail à faire. Ce travail ne peut pas se faire en dehors de la classe politique. Ça, c'est un travail qu'il faut faire avec la classe politique et l'ensemble de la classe politique d'ailleurs. Donc, pour parler de l'organisation des élections, le problème ne doit pas se limiter seulement à la remise en cause perpétuelle des structures existantes. Je pense qu'il y a du bon, il y a du moins bon, il y a du mauvais dans le travail. Maintenant, le problème du Mali aussi ne se résume pas au seul texte. Comme je le dis chaque fois, c'est un problème de moralité. Il faut avoir des gens intègres, des gens sérieux, des gens honnêtes, des gens sincères. Lorsque vous prenez les élections législatives de 2020, qu'est-ce qui s'est passé? Tout le processus était là. Les gens, quand même, avaient relativement accepté les résultats des élections. Mais c'est au niveau de la Cour constitutionnelle que la goutte d'eau a fait déborder le vase. Vous voyez un peu. Donc, les contestations ne sont pas seulement liées aux élections, communales, législatives, etc. Il y a des contestations qui se font même pendant les premiers tours. C'est le système qui est là qui fait que les choses ne fonctionnent pas correctement. Donc là, il y a des choses à corriger, mais il ne s'agit pas d'incriminer une structure. Pour moi, nous sommes tous acteurs, nous sommes tous responsables souvent de l'échec de ces élections-là. Quand vous prenez il propose une CENI, bon, un organe unique de gestion composé de 15 membres. Aujourd'hui, le critère de choix, c'était quoi? Il y avait, selon le format de l'ancienne CENI, et sur les 15 membres, il y avait l'opposition 5, la majorité 5 et la société civile 5. Aujourd'hui, sur quelle base on peut dégager une opposition et une majorité? Ça pose un problème. C'est pour ça que nous avons proposé à ce niveau une CENI transitoire pour voir un peu comment on peut faire ce travail. Ensuite, il a parlé de la création de la relecture de la loi électorale. Sango était avec nous là-bas au gouvernorat du district lors des ateliers de 25-26 et il était là-bas. On en a dit, c'est même acté dedans, même si c'est un projet. Lorsque vous partez aujourd'hui au ministère de l'administration territoriale, c'est très clair dedans. Nous avons demandé que l'organe unique de gestion des élections figure dans la loi électorale. Et ça existe là-bas. Nous avons fait un travail extraordinaire. Ce travail, les conclusions sont là-bas. On peut partager ça avec la classe politique. Tout le monde était là-bas. Tout le monde était là-bas.
Ok, merci Monsieur Bakary Dena. Ibrahima Sango, vous l'avez tantôt amorcé lors de votre précédente intervention. Où en sommes-nous aujourd'hui avec le fichier électoral?
Le fichier électoral n'a pas actualisé, parce que tout le monde se rappelle, du 1er octobre au 31 décembre 2020, les administrateurs civils étaient en grève. Or, comment se fait l'actualisation du fichier électoral? C'est à travers les représentants de l'État, dans les communes, dans les ambassades et consulats, avec la classe politique. Donc si les administrateurs civils étaient en grève et tous les autres démembrements, les mairies étaient en grève, les secrétaires généraux étaient en grève, donc c'est, il y avait un parallélisme, ça paralysait les choses. Et donc il n'y a pas eu de révision des listes électorales en 2020. Or, la révision des listes électorales en 2020 doit permettre d'organiser les élections 2021 avec ces listes électorales. C'est pourquoi nous disons aujourd'hui le calendrier qui est, il a parlé tantôt du comité des experts, le calendrier qui est le comité a proposé très simple. Juillet-août, il y a la lecture des textes, la loi électorale notamment, qui doit fixer l'organe. Parce qu'il y a trois enjeux dans la loi électorale. Premièrement, créer l'organe, donc en modifiant les articles 27-28. Deuxièmement, revoir le mode de scrutin des députés à l'Assemblée nationale. C'est un mode de scrutin majoritaire. Il faut revoir pour que ce soit un mode de scrutin proportionnel, pour que la représentativité au sein de l'Assemblée nationale soit actée. Et troisièmement, c'est la publication en ligne des résultats, bureau de vote par bureau de vote, dans la loi électorale. Parce qu'on parle d'organe unique, tantôt il a dit, c'est souvent les hommes font problème, donc il faut dans la loi la publication en ligne des résultats, bureau de vote par bureau de vote. Parce que si les organes actuels n'expriment pas confiance, c'est parce qu'il y a eu des choses qui ont été faites. Un exemple clair, c'est en 2020, Mopti, derrière le fleuve, il n'y a pas eu d'élection, mais le ministère de l'administration territoriale a comptabilisé les résultats, la Cour constitutionnelle a comptabilisé les résultats. Ça pose problème. Donc, si l'OG est en place, et août-septembre, l'OG va se mettre en place au niveau national et international. Maintenant, octobre-novembre, ou même à partir de septembre-octobre, il y aura la révision exceptionnelle des listes électorales pour qu'on ait des listes électorales fiables sur lesquelles on va faire les élections en 2022. Et si en septembre-octobre, on fait la révision exceptionnelle des listes électorales, l'organe unique a jusqu'au mois de janvier pour se mettre en place sur l'étendue du territoire et pour se former les agents électoraux, former ses démembrements, etc., etc. Ce que je voudrais dire par rapport au consensus, le consensus doit prévaloir aujourd'hui parce qu'on est dans un régime d'exception. Un régime d'exception n'est pas à l'honneur ni des partis politiques ni de l'armée nationale, l'armée. Parce que toutes les normes et conventions internationales disent que le pouvoir militaire, l'armée doit se soumettre au pouvoir civil. Donc le régime d'exception veut dire que les partis politiques doivent aussi cultiver un maximum de consensus pour qu'on sorte de ce régime d'exception. Et en février-mars, on peut faire l'élection présidentielle et l'élection législative. Février, on peut faire le premier tour d'élection présidentielle avec couplé avec les élections législatives sous forme de proportionnelle. Et en mars, on peut faire le deuxième tour de l'élection présidentielle et on sort de la transition. Ça veut dire que tout ce qui est élection locale, communale, régionale, et tout ce qui est référendum, on met une croix là-dessus, on laisse au pouvoir légitime qui sera là de faire les élections. Donc le calendrier est très simple. D'août à mars, on peut mettre en place l'organe, on peut relire la loi électorale, tout au moins, et puis relire aussi la loi organique des députés, parce que ce qu'il faut dire à ce niveau, c'est que les 147 députés qui sont à l'Assemblée nationale, c'est sur la base du recensement administratif de 1996, qui donnait 9 800 000 habitants à l'époque. Aujourd'hui, nous sommes plus de 20 millions d'habitants. Il faut revoir le nombre de députés, il faut revoir le mode de scrutin des députés, et là, on peut aller de l'avant. Donc, réforme à minima, élection à minima, on sort de la transition.
Alors, tout en minima, Amadou Traoré, vous venez d'entendre Amadou, Dr Ibrahima Sango, je vais vous appeler Amadou Sango, vous venez d'entendre Dr Ibrahima Sango. Que peuvent être aujourd'hui les obstacles pour la tenue d'une élection au Mali? Nous savons que nous avons l'insécurité, Sango venait de dire que lors des élections précédentes, il n'y a pas eu vote derrière le fleuve à Mopti. Que peuvent être les contraintes pour la tenue de ces élections?
À Mopti, où j'étais d'ailleurs candidat aux dernières élections législatives. Voilà. Et aujourd'hui, la grande contrainte, vous l'avez dit, il y a eu la contrainte sécuritaire, il y a eu la contrainte organisationnelle, c'est-à-dire tout ce que nous évoquons, bien que les docteurs proposent une solution au minimum, même si à la fin, cela va de soi que la Cour constitutionnelle sera amenée à intervenir pour la déclaration des résultats définitifs. Et définitif, mais il faut également la bonne volonté aujourd'hui des autorités de la transition à aller vers ça. Voilà, parce que tout ce qui se dit ne doit pas rester des simples déclarations. Il faut que les calendriers soient respectés, il faut beaucoup d'engagement et puis beaucoup de travail. Il faut une disponibilité financière également à supporter tout ça. Voilà, c'est sûr qu'avec la crise que nous connaissons et puis beaucoup d'années maintenant, c'est pas évident que le Mali soit en mesure de financer intégralement ces élections. Donc il faut que nos partenaires soient avec nous pour accompagner la prise en charge de toute cette activité également.
Une dernière question pour un tour de table. Il nous reste moins de 5 minutes pour la fin de l'émission. Est-ce que les jalons sont suffisamment posés pour des élections à partir du mois d'octobre prochain? Je commence par vous, Bakary Dina.
Merci bien pour la question. Et les jalons sont posés parce que la volonté est là. Aujourd'hui, les gens veulent aller aux élections. Vous avez déjà constaté depuis un certain temps. Et les candidats, les potentiels candidats déjà sont sur le terrain depuis quelques temps. Ça veut dire qu'il y a une volonté qui est là pour que les gens puissent aller aux élections. Maintenant, pour aller aux élections, c'est pas diabolique. Et nous sommes dans une transition, comme M. Sango l'a dit. Et je pense que c'est l'inclusivité qui doit prévaloir. Et il a parlé de consensus, je suis d'accord avec ça. Il faut qu'il y ait un consensus, il faut qu'il y ait un SMIC. Il faut qu'on s'accorde sur le minimum. Et si on s'accorde sur le minimum, autour d'un consensus, alors on peut aller très loin. On peut tout faire. Donc les obstacles aujourd'hui, c'est d'abord le manque de consensus. Si on arrive à résoudre ce problème et à unir l'ensemble de la classe politique, et la classe politique d'ailleurs a toujours manifesté sa bonne volonté à l'endroit des autorités de la transition. Il n'y a eu aucune contestation de la part de la classe politique. Nous avons toujours accompagné les autorités de la transition et nous continuons à les accompagner parce que la réussite de la transition, c'est la réussite du Mali. Donc aujourd'hui, je pense que la balle est dans le camp des autorités. Nous sommes disponibles, nous sommes disposés et nous sommes prêts à les accompagner, mais sur la base du consensus. S'il y a le consensus autour des grandes questions de la nation, il n'y a pas de problème, on peut réussir à tenir les élections à bonne date. Et c'est une nécessité pour le Mali aujourd'hui d'aller à ces élections pour qu'au moins le bateau malien puisse un peu bouger, pour que le Mali revienne dans le concert des grandes nations.
Amadou Traoré, des élections d'ici la fin de la transition, vous y croyez également?
C'est un souhait. Hein, et je voudrais ardemment que ce soit le cas, bien que je reste très pessimiste. Et mon pessimisme est résiduel quand même au fait que je ne vois pas trop de mouvements autour de ça du côté de l'autorité publique. Voilà. Il ne s'agit pas juste de faire preuve de bonne foi dans ce qu'on dit, mais nous voulons que les actions réelles puissent suivre ce terrain. On voit effectivement tout le travail qui se passe autour de cette question pour que l'objectif définitif puisse être atteint. À ce niveau, je pense que ce qu'on voit sur le terrain ne reflète pas l'allure qu'il faille adopter pour atteindre ces résultats.
Docteur Brima Sengou, êtes-vous également animé par ce sentiment de pessimisme vis-à-vis de ces élections à venir?
Non, nous sommes optimistes, mais nous disons qu'il faut aller vite, très vite. Parce que le discours du Premier ministre, quand on l'a suivi au niveau du Conseil national de transition, il a été clair, il dit qu'il y aura l'organe unique de gestion des élections qui va être créé. Mais dans quel délai? Aujourd'hui, il faut aller rapidement. Rédactif de la loi électorale, rédactif de la loi organique. Et parce qu'il y a 18 mois qui ont été donnés à la transition, 8 mois restent. Donc les 10 mois, rien n'a été fait presque. Et donc les 8 mois qui restent, il faut voir les choses à minima. Et il faut obligatoirement un consensus entre le gouvernement et la classe politique. Parce que les principaux intéressés pour la conquête et l'exercice du pouvoir, c'est la classe politique. Donc le gouvernement doit se mettre à table avec la classe politique, convenir très rapidement des règles du jeu des prochaines élections. Et là, aujourd'hui, on sait qu'une majorité de la classe politique est en train de rejeter le référendum. Donc enlever ça du programme, aller à l'essentiel, relire la loi organique des députés, et puis aller à des élections essentielles, présidentielles, législatives, pour sortir de la transition et pour qu'on ait plus ce régime d'exception.
Merci beaucoup, Dr Ibrahima Sango. Les élections sont-elles possibles aux dates indiquées, c'est-à-dire d'ici la fin de la transition? C'était le thème central de notre émission, le Grand Dialogue de ce soir. Merci à nos invités, Bakary Dena, secrétaire général du parti PDS, Dr Ibrahima Sango, président de l'Observatoire citoyen pour les élections, une organisation de la société civile. Au téléphone, on avait Amadou Traoré, homme politique et président d'honneur du camp de jeunesse entreprenante pour le développement. À la régie vidéo, on avait Mamadi Keïta, à la technique Gagny Kanté. Je suis Mariam Maïga. Bonsoir à toutes et à tous et à la prochaine.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dawani Ouamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chien Nibiri.
Halou Dmoun.
Chien Nibiri.